Excellent début de semaine. Merci d'être là. C'est presque la rentrée quand mon collègue animateur préféré, Paul Arcand, est de retour. On peut dire que c'est la rentrée maintenant. Alors, je t'en souhaite une très, très belle. Isabelle Maréchal sera de retour, quant à elle, la semaine prochaine. Donc, encore une belle semaine ensemble avant que je retrouve mes quartiers avec justement l'équipe depuis qu'il faut se lever. Aujourd'hui, on va parler des ados. Et là, je vais faire attention à ce que je dis parce qu'il y en a un en ce moment à côté de moi qui me regarde, qui va certainement me dénoncer si je dis trop d'affaires parce que vous savez, j'ai une belle fille qui a 17 ans. Qui s'appelle Laurie. Et là, Sergei, qui a aussi 17 ans, va peut-être me regarder en me disant « Toi, tu as besoin de faire attention à ce que tu dis. » Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Hein? C'est une période qui peut être difficile autant pour les ados que pour les parents. Alors, comment on fait justement pour garder le cap, garder un certain contrôle aussi, garder la discussion? Donc, ça demande de la patience souvent des parents. Alors, on va en parler avec la psychologue Nadia Gagné qui sera avec nous. Et pour cette prochaine heure, ben, on avait envie de s'intéresser aux jeunes Québécois issus de l'immigration. C'est quand même une personne sur 3 à Montréal, c'est beaucoup. Et là, quand on parle des enfants de deuxième génération dont les parents sont arrivés ici au Québec, qui sont Québécois, qui vont à l'école, qui travaillent, quels sont leurs défis? Est-ce qu'on leur fait même assez de place au Québec à ces jeunes-là? Alors, on va en parler dans la prochaine heure. Et bien sûr, vous êtes invité à participer. Adi Hassine, salut.
Bon matin.
Content de te retrouver.
Content aussi.
Parce que j'ai travaillé avec Adi il y a quelques temps en émission en ligne.
Oui, avec Dominique Carpin.
Oui, ça a été un grand plaisir. Et là, maintenant, c'est un stagiaire. Et là, c'est rendu un journaliste, chroniqueur.
Voilà.
Partout dans les médias qu'on pourra suivre également. Emrical, bonjour. Merci d'être là. Artiste, travailleur et entrepreneur social, bonjour.
Bonjour.
Et aussi Dorothy Alexandre, entrepreneur en communication et présidente du Conseil des Montréalaises. Bonjour, merci d'être
Bonjour,
là.
Bonjour, ça fait plaisir. Merci de l'invitation.
Et j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais on va le présenter quand même. Sergei Markov, salut.
Salut, salut.
17 ans, qui a d'origine russe. Aussi, on va pouvoir parler de tes origines, mon cher Sergei. On commence avec Adi.
Oui.
24 ans, ton père est irakien, ta mère est libanaise.
Exactement.
Musulman pratiquant.
Oui.
Comment ça s'est passé ton enfance, toi, à Montréal-Nord?
Ben, mes parents m'ont éduqué dans l'islam, mais dans un laisser-aller de... Écoute, tu prends ce que tu veux.
Okay.
Honnêtement, là, ça a été un peu ça. C'est encore ça aujourd'hui. Je me considère musulman d'identité, mais ma pratique de l'islam est pas très... est quand même très flexible.
OK. Mais ta façon d'éduquer, justement, tu parles de la pratique de l'islam, mais bon, tes parents avaient quand même un bagage quand ils sont arrivés ici aussi. Irakiens, Libanais, donc déjà, tu as un mélange des genres entre les deux. Ça s'est passé de quelle façon? Parce que là, évidemment, c'est deux cultures différentes aussi.
En fait,
là.
Non, à ce niveau-là, il n'y a eu aucun clash entre mon père et ma mère. Vraiment, là, l'islam a pris quand même beaucoup, la majorité de la place.
Mm-hmm.
Après ça, je pense que nous aussi, on a éduqué nos parents parce qu'on a été, en fait, la porte de sortie de la maison. On est sortis de la maison, on est allé chercher l'information et on a ramené ça à la maison. Je pense que mon père s'est beaucoup intégré à travers ses enfants.
Ah oui, donc
grâce
c'est...
à nous.
Ah oui, c'était une façon pour lui de s'ouvrir justement sur la culture québécoise.
Voilà.
Et de ne pas rester dans la maison ou avec les idées préconçues.
Oui, exactement. Ouais. Tu sais, mon père, il y a 20 ans, puis l'homme qui est aujourd'hui, c'est deux personnes complètement différentes. Ma mère me raconte un peu comment mon père était il y a quelques années. Plus fermé d'esprit sur certains sujets. Aujourd'hui, je suis presque étonné des fois quand il me parle de certaines affaires.
Ah oui? Ouais. Comme
non, mais il y a quelques années, mon père, on parlait de l'homosexualité. C'était un tabou, il ne voulait pas qu'on en parle. Maintenant, on en parle sans problème à la maison. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de... C'est un gros cheminement qu'il a fait.
C'est une grande ouverture. Lui-même.
Oui. Puis pour moi, c'est la plus belle chose, ça.
Oui.
Que mon père soit capable d'aborder certains sujets qu'il n'aborderait même pas avec sa famille en Irak.
Hey, c'est dire. Ouais. Oui. Que le pont... Puis justement, quand il parle, ben, vous avez encore de la famille à l'extérieur aussi.
Oui,
évidemment, beaucoup plus. Oui, aussi. Est-ce qu'il y a une différence? Tu parlais de mentalité, des discussions qu'il ne pourrait pas avoir. Est-ce qu'il s'en fait parler par soit la communauté irakienne?
Non, écoute, c'est encore un tabou dans, dans certaines communautés. Je pense spécialement à la communauté irakienne. En fait, on est très proche de la communauté libanaise à la maison.
Plus.
Oui.
OK.
Mais non, ce n'est pas des sujets qu'il aborde à l'extérieur de la maison.
Emrical, d'origine haïtienne, qui a grandi à Saint-Michel, par la suite à Laval aussi.
Mm-hmm.
Tu travailles beaucoup avec des jeunes de 13-15 ans. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont venus ici nous rencontrer. On les salue, ils sont dans l'arrière de la console. Ils regardent un peu les métiers. On pourrait les faire venir en studio tantôt. Comment les jeunes perçoivent le Québec, les jeunes avec qui tu travailles, issus de l'immigration?
Je pourrais dire que ces jeunes-là, ça fait 5 ans que je mène un projet pilote, que je porte un projet pilote avec eux pour les faire découvrir des institutions culturelles. Les faire découvrir que ce soit l'Opéra de Montréal, la Place des Arts. On est en partenariat avec un organisme qui s'appelle Execo. Les faire découvrir aussi le Musée des Beaux-Arts. Donc, parce qu'on peut être né au Québec, né à Montréal, mais être un peu touriste, être un peu étranger du territoire.
Oui.
Parce qu'il y a une forme d'exode du regard vers les productions américaines. Parce qu'ils se reconnaissent plus dans la télévision américaine, leurs référents, les chansons, leurs rêves sont plutôt portés ailleurs. Donc, il faut faire un effort supplémentaire pour les montrer que même ici, ils peuvent vivre une grande partie de leur humanité, peut-être la totalité de leur humanité, s'ils sont au courant des différents pôles auxquels ils peuvent se raccrocher.
Et toi, qu'est-ce que tu fais justement pour te raccrocher et vivre le Québec, Montréal?
Plusieurs choses, mais je pourrais dire que j'ai grandi dans un contexte où j'allais chaque dimanche à l'église. Donc, j'étais avec ma communauté évangélique à l'époque. Par la suite, je me suis fait différents réseaux. J'étais dans les cadets de l'air, à un moment donné, dans les scouts. Donc, tout ça, ça aide un peu à comprendre, à se faire différents référents. L'école secondaire est un milieu terrible pour plusieurs, mais un terrain aussi fertile pour développer de nouvelles aptitudes, de nouveaux anticorps pour socialiser avec d'autres. Donc, je pense que c'est tout ça que j'ai fait, mais aussi l'engagement social. Il n'y a pas un meilleur terrain, que ce soit quand j'aidais à Mission Bon Accueil avec un projet à l'époque qui s'appelait le Club de l'Arche des jeunes de quartiers qu'on dit défavorisés. Donc, ça m'aidait à avoir un ancrage et à me mettre à sentir que je m'accomplissais. Donc, c'est une des plusieurs choses que j'ai fait.
Dorothée Alexandre, née à Montréal, grandit à Anjou, des parents d'origine haïtienne aussi. Est-ce que c'est un petit peu le même parcours que Emrical?
Je dirais que c'est un parcours qui peut être similaire. C'est-à-dire que nos parents, puis je pense que l'aîné également ici, deuxième génération, quand ils sont arrivés au Québec, c'était dans l'espoir de donner tout ce qu'ils n'avaient pas nécessairement eu. Alors moi, j'ai eu une maman extraordinaire, celle qui nous a permis de déployer nos ailes en nous inscrivant, même si c'était monoparental à l'époque, parce que mon père habitait aux États-Unis, de nous inscrire dans des activités qui pouvaient à l'époque paraître difficiles pour une mère monoparental, c'est-à-dire la natation, faire du baseball, etc. Donc, ce sont des points d'ancrage, comme vient de mentionner Emrical, où est-ce qu'on a pu continuer à faire notre évolution et surtout nos écoles. Nous, nos parents ont beaucoup investi pour nous dans nos écoles parce qu'ils se sont dit, un jour, on ne sait pas si on va avoir les moyens de vous laisser un héritage, mais au moins, on peut vous laisser l'éducation. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour nous, les écoles ont été également des lieux importants où est-ce qu'on a pu bâtir notre leadership, bâtir également qui on aime, puis qui on est plutôt. Et j'ai vécu quand même 20 ans à Rivière-des-Prairies. Donc, 2 ans en joue, mais 20 ans à Rivière-des-Prairies. Et pour moi, ce quartier-là était extraordinaire parce qu'il y avait comme, à l'époque, un paradoxe. C'est-à-dire que les gens percevaient Rivière-des-Prairies d'une certaine façon, alors que moi, j'y vivais, puis je me disais, mais Rivière-des-Prairies, c'est beau. Il y a des gens de communauté italienne, des gens de communauté haïtienne. Maintenant, il y a de plus en plus de communautés issues des pays asiatiques. Maintenant, j'habite plus en Villeray. Mais pour moi, ces 20 années-là m'ont permis de dire, il ne faut pas que je me fie à ce que le regard de l'autre peut dicter par rapport à mon environnement. Ça a pris à partir de ce moment-là une ampleur vraiment très grande par rapport à mon engagement social, par rapport aux propres biais que moi je peux avoir et quels sont les changements sociaux que je peux apporter à travers mes différentes implications.
Oui. Elle dit, ça s'est passé comment à l'école pour toi?
Secondaire.
Tu viens de finir l'an passé,
non?
C'est pas
vrai. Non, le secondaire, ça a très bien été. J'allais dans une école à Montréal-Nord où la majorité des étudiants étaient d'origine arabe ou haïtienne. Mais il y avait quelques Québécois comme on dit de souche.
Oui.
Ça a été mes amis. Ensuite, j'étais au cégep, j'ai fait un doc en sciences humaines et à l'université en communication, il n'y avait aucune personne d'origine arabe. Pour moi, ça a été un avantage parce que ça m'a permis d'être différent déjà au départ. J'avais mon casting, mon bagage que personne ne connaissait. Donc, naturellement, il y avait un intérêt pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, c'est encore ça qui se passe. On me regarde, on me demande souvent d'où je viens. Et pourtant, je suis Québécois, je suis né à Montréal. Mais il y a toujours cette fascination un peu pour mon histoire qui fait que je me démarque plus facilement que d'autres personnes.
Mais c'est pas tannant de se faire dire... Puis je sais que j'en ai parlé avec différentes personnes aussi qui de différentes origines, mais oh, je t'annie que tu me parles de mon accent, je t'annie que tu me parles de peut-être de mon nom qui est peut-être différent aussi. D'où je viens? Mais je viens du Québec, je suis née au Québec. Ça vient pas à un moment donné un peu à être comme une difficulté supplémentaire?
Ça a été longtemps un complexe parce que je m'en fais constamment. En fait, les personnes d'origine arabe souvent vont me dire « Mon Dieu, t'as vraiment un accent très québécois. » En fait, pour les Arabes, je suis pas suffisamment arabe. Pour les Québécois, je suis pas assez québécois. Je me retrouve dans un entre-deux, puis ça fait que je rencontre des gens comme moi et on se lie d'amitié encore plus rapidement. C'est ce qui arrive souvent. Ça a été un brin difficile à un certain moment dans ma vie.
Est-ce que vous l'avez déjà vécu?
Oui. Je dirais, ouais, je dirais que oui, on parle de cette dualité identitaire, puis qui même peut avoir un impact sur les enfants qu'on est en train d'élever. Moi, j'ai une petite poupoune de 3 ans, 4 mois. Donc, puis elle a un fort caractère. Puis déjà, je suis consciente, elle commence déjà à être consciente de sa différence. Puis je dirais, quand on parle de d'où je viens, je comprends cette fascination que les gens peuvent avoir. Mais en même temps, en effet, c'est de dire, c'est quoi la définition d'un Québécois ou d'une Québécoise? Et le danger, lorsqu'on est fasciné par une autre personne, mettons comme quelqu'un comme toi a dit, c'est de considérer cette personne-là comme une exception à la règle. C'est-à-dire que moi, je travaille dans un milieu X. En travaillant dans ce milieu X, c'est certain que peut-être que vous n'avez pas accès à... Certaines personnes ne voient pas beaucoup de personnes issues de ma communauté. La même chose pour la communauté arabe. Donc, on a l'impression d'être l'exception à la règle. Mais moi, des exceptions ou des gens qui ne sont pas des exceptions, j'en ai à la tonne autour de moi, que ce sont mon conjoint, les amis de mes conjoints, mes meilleurs amis, ce sont des gens qui sont éduqués. Si ce sont des gens qui sont moins éduqués, ce sont des gens qui font leur place, que ce soit des métiers manuels, etc. Donc, je pense que le danger, c'est ça, c'est de voir l'exception à la règle parce qu'on connaît juste une seule personne versus se dire, mais il y a tellement d'autres personnes dans la grande région Québec, métropolitaine ou au Québec.
Mm-hmm. Pour aller dans le même sens que ce que dit Dorothée, j'avais cette même phrase qui venait en tête, c'est le fardeau de l'exception puis le cauchemar de la statistique. Mm. Tu ne veux pas devenir une statistique parce que il est clair que dans les données qu'on sort des fois pour demander certains changements sociaux, il y a le fait qu'il y a une surinterpellation des personnes noires par le service de police, il y a une surreprésentation des personnes noires dans nos prisons fédérales canadiennes. Il y a des statistiques comme ça que tu vois, puis c'est comme si des fois tu sens que tu as une responsabilité individuelle de faire plus d'efforts. Et dans les stratégies qui sont prises, c'est de pouvoir très bien comprendre les rouages de la communauté, la société dans laquelle on vit, pour dire que ce n'est pas une responsabilité qui doit forcément être individuelle, mais qui doit le système aussi doit se questionner sur pourquoi certaines choses se passent.
Mm-hmm. Puis continuer à en parler justement, mais c'est ce qu'on va faire dans cette prochaine heure. Et on demande aux auditeurs de communiquer avec nous. 1-866-790-9050-514-790-9050. Est-ce qu'on fait assez de place justement aux jeunes? Et là, on s'intéresse plus évidemment à la jeunesse. Si vous êtes dans la vingtaine, vous êtes au secondaire, on veut vous entendre là-dessus. Est-ce qu'on fait assez de place? Les défis également de ces jeunes issus de l'immigration, ce qu'on appelle la deuxième génération. Alors, vous pouvez également nous écrire par courriel. On se retrouve après la pause. Est-ce qu'on fait assez de place aux jeunes issus de l'immigration, ce qu'on appelle les enfants de deuxième génération? 1-866-790-9050-514-790-9050. Tout à l'heure, on a parlé rapidement et on a fait un tour de table un peu de vos origines, également de votre parcours de vie, autant à l'école secondaire. On n'a pas parlé à Sergueï Markov qui est avec nous. Salut, Sergueï.
Salut, salut.
17 ans, tu viens de terminer ton 5e secondaire, tu t'en vas au cégep. Raconte-nous un peu, toi, tes parents sont arrivés, ça fait quand même une vingtaine d'années, ici, de Russie.
Ouais, ils sont venus ici, ça fait environ 21 ans. Ils sont venus ici en 1997. Puis par la suite, ils se sont trouvés un travail, ils se sont trouvés un métier, ils ont commencé à étudier. Puis là, par la suite, mon père est devenu informaticien, consultant d'informatique. Ma mère elle a rejoint l'Ordre des chimistes du Québec. Puis par la suite, il y a eu moi, trois ans plus tard. En fait, avant moi, il y a eu ma sœur, oui. Anastasia. Ensuite, il y a eu moi, Sergueï. Puis ensuite, j'ai eu ma sœur Catherine. Ensuite, il y a eu mon petit frère Alexandre. Et pour finir, Victoria.
Donc, une belle famille. Ans, ouais. Donc, c'est ça. C'est un petit peu beaucoup de travail pour ta mère, finalement.
Écoute, ouais. C'est... Vu qu'on est beaucoup, c'est beaucoup de travail, là.
Oui. Voilà. J'imagine. Mais à l'école, justement, ça s'est passé comment? Est-ce que toi, tu vivais dans les deux cultures, la culture russe, parce qu'on parle russe à la maison, chez toi? Ouais. Est-ce que toi, tu t'es senti avec une appartenance plus russe, plus québécoise? Comment ça s'est passé?
C'était pas mal partagé parce que, en fait, moi, quand j'étais petit, j'écoutais des émissions soviétiques. J'écoutais pas les émissions qu'on écoutait ici. Fait que...
T'avais le câble comme nous? C'est un câble, c'est un réseau différent ou quoi?
Ouais, c'est ça. On a une sorte de câble russe, là, où on a tous les postes et tout. C'est ça. Mais ouais, fait que là, à l'école, on parlait des films. On était comme, oh ouais, t'as-tu écouté ça? T'as-tu écouté cette émission-là? Puis moi, j'étais comme, non, je sais pas de quoi tu parles. Et comme, mais voyons donc, tu sais pas c'est quoi ça?
Ramdam, ça te dit rien.
Mais c'est ça, mais Ramdam, j'écoutais genre une fois de temps en temps, mais c'était pas genre quelque chose qui venait me chercher tant que ça, là, puis j'avais pas de hâte à écouter cette émission-là, fait que j'écoutais mes propres émissions, mes films russes, puis tout ça, parce que je trouvais ça plus
intéressant,
puis ça venait plus me chercher, parce que c'était plus dans mes valeurs. Fait que...
Ben, c'est ce qui fait qu'il parle russe aujourd'hui.
C'est ça, hey. C'est ça, ouais. Effectivement. Puis j'ai eu aussi... ben, c'est ça, il y a eu beaucoup de... J'ai écouté mes émissions, puis en plus, à l'école, ben, quand je faisais des actions, c'était comme « Oh, you! » Genre, mettons, j'avais oublié mon manteau à la récréation. Ben, on me disait « Oh, tu portes pas ton manteau parce que t'es russe, oh, parce que vu que t'as une plus grande résistance au froid, là, t'es comme... » Oui, mais non, c'est juste que j'ai oublié mon manteau. Ça finit là.
Ça n'a pas rapport.
T'as pas besoin d'aller chercher mes origines pour ça. Là,
ouais, mais on t'a qualifié aussi de Markov, évidemment, avec André Markov.
André Markov, oui.
Donc, tout le monde pensait que c'était ton quoi, cousin.
Oui, je me rappelle, il y a une petite anecdote. C'était au primaire. Je venais d'arriver en deuxième année à Saint-André-Apôtre. C'est dans Nsik. Il y avait plusieurs enfants. Ben, j'ai commencé à me présenter, puis tout. Puis, il y a eu un gars qui était venu me voir et comme « Hey, André Markov, es-tu dans ta famille? » Fait que là, je fais « Ben non. Pourquoi? » Comme « Ben, ton nom de famille, c'est Markov, voyons donc, là. André Markov, le joueur. »
Il te l'imposait, genre.
C'est ça, il me l'imposait. Puis là, le lendemain, il arrive, il me revient, à la fin de l'école, il est comme « Yo, j'ai fait mes recherches Internet, puis j'ai vu que c'était ton oncle. » Là, je fais « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? » Puis là, je comprenais pas, puis il me l'imposait. Puis là, tout le monde venait me voir, et comme « Oh, ouais, il est dans ta famille, je le sais. » Moi, je me retrouvais, j'étais comme « Mais non, il est pas dans ma famille. »
C'est une belle imposition. Des fois, on t'impose des choses un peu plus intenses.
Oui, mais à mon avis,
c'est ça, oui. Quand on commence à te parler de politique en Russie ou peu importe, c'est sûr que...
Oui, c'est ça.
C'est moins intéressant. On va prendre quelques appels à 866-790-9850. Mina, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, Mina, comment ça se passe pour vous?
Ben, au fait, moi, je voulais, concernant la place qu'on donne à nos jeunes et puis le parcours, moi, je suis maman de première génération. Et c'est vrai qu'on est extrêmement exigeant. Et puis, je parle pas juste de ma famille à moi, mais toute la communauté, tous ceux que je côtoie, que je connais, les cousins, la famille, etc. Extrêmement exigeant pour nos enfants, que ce soit pour les études, certains pour le sport, pour la musique, etc., etc. Des fois, je me dis que oui, parce qu'on a tout laissé pour donner un avenir meilleur à nos enfants.
Donc, il n'y a pas le choix de réussir.
C'est ça. Puis des fois, je me dis, est-ce que c'est trop? Pourtant, ici, on n'est pas obligé d'être ingénieur, médecin pour réussir. Hein. On peut être, c'est pas pour dénigrer, là, mais un métier professionnel, plombier, électricien, on a une super belle vie. Et des fois, je me dis, on est tellement exigeant, des fois, je me dis, il faut que je lâche un petit peu de lest. Parce qu'on y met beaucoup de pression pour réussir dans les études, etc. Donc, c'est ça le défi aussi des parents comme moi, d'enfants de première génération. Mes enfants, les deux, sont nés ici. Et j'avoue que je mets beaucoup de pression pour réussir. Donc, c'est ça le défi.
Mais en même temps, c'est un peu normal, j'imagine, quand tu as tout quitté ton pays, puis on s'entend, là, c'est pas facile de quitter le pays d'origine, de partir avec les enfants ou de partir avec son baluchon, d'arriver...
Tout laisser,
oui, c'est ça.
Tout laisser, famille, carrière, bien, on laisse tout. Hein, moi, à 30 ans, je suis arrivée ici, puis je suis retournée aux études. J'étais 10 ans à la banque là-bas, j'avais un très bon poste. Mon mari était ingénieur, donc on a recommencé à zéro. Et c'est sûr que avec nos enfants, quand ils sont arrivés, on s'est dit bon, on est là pour eux, pour que eux réussissent. Nous, on a laissé une partie de nous-mêmes ailleurs pour que eux, ils aient une meilleure vie, mais bien remplie, bien réussie. On n'en fera pas des enfants qui vont être sur le bien-être social ou qui vont traîner dans. On est extrêmement exigeant et je parle vraiment pour tous les immigrants quasiment. Je connais aucun, je connais beaucoup de monde, il n'y a aucun qui n'est pas autant exigeant envers ses enfants pour la réussite scolaire et qui dit réussite scolaire, dit réussite dans la vie pour la société québécoise et beaucoup, beaucoup, on apporte beaucoup à la société québécoise, canadienne aussi.
Adi, est-ce que c'est ce que tu as ressenti, toi?
En fait, moi, je pense que les parents de ma génération vont permettre plus à leurs enfants de concilier leurs rêves et, en fait, leur passion et dans le travail. Mes parents, ça n'a pas été le cas. Mon père a absolument exigé de tous ses enfants qu'ils aillent à l'université. Mais moi, mes enfants, je veux les encourager à choisir leur métier en fonction de leur passion.
Oui.
Puis, c'est intéressant ce que vous dites, Mina, parce qu'il y a quand même un paradoxe, à savoir que lorsqu'on regarde les statistiques, les gens issus des communautés culturelles, spécialement les personnes dites de minorités visibles, même avec plus d'éducation, ont un taux de chômage plus élevé. Donc, en effet, nos parents nous ont incités davantage à aller davantage vers les bancs universitaires, sur les bancs universitaires. Ouais. Mais en même temps, il y a des statistiques qui nous démontrent qu'on peut travailler deux fois plus fort pour avoir ce que nos parents nous disaient deux fois moindre. Et je vous dirais que, comme tu dis, Adi, oui, c'est vrai que nous, on va permettre à nos enfants de concilier leur passion et leur le travail. Mais moi, j'ai une petite fille de 3 ans, puis indirectement, je me rends compte que je mets un peu plus de pression sur elle. Ma fille, elle a 3 ans, elle est bilingue. Déjà 3 ans, elle est bilingue. Mon conjoint est francophone, mais il lui parle en anglais strictement. Moi, j'y parle en français parce que je me dis un peu comme maman. Je ne sais pas demain qu'est-ce qui va nous arriver, mais on lui donne toutes les chances de réussir, que ce soit ici ou à travers le monde. Donc, c'est paradoxal, puis ça nous déchire. C'est pas qu'on veuille savoir le faire.
Mais est-ce que c'est encore cet effet de survie quand même?
On
ne sait pas ce qui s'en vient après. Donc,
oui. On est toujours... Il y a un enjeu économique. On prépare nos enfants très tôt à pouvoir être autonomes à plusieurs niveaux. Quand j'entends ce que Dorothy fait avec sa fille, c'est totalement dans le génie parental. Je pense que tout parent veut que ses enfants maîtrisent très bien la langue de l'espace dans lequel il évolue. Mais si l'enfant peut même être trilingue, apprendre plusieurs langues, plusieurs codes, en fait.
C'est ça.
C'est même une question de code, comment naviguer dans différents espaces. Moi, j'en suis là avec les jeunes que je côtoie. On utilise le terme « code switching » des fois. Il y a une manière dont les personnes d'une même, pas dire ethnie, mais d'une même communauté d'origine, il y a une manière dont ces personnes se parlent entre elles. Il y a une manière dont elles parlent à leurs amis de d'autres origines. Il y a une manière dont on se présente aussi au travail. Ce sont tous des mécanismes de survie pour pas apparaître, pour pas envoyer une perception à laquelle qu'on voudrait pas porter.
Si je peux me permettre, quand on parle de code et de référence, je trouve ça intéressant parce que pour moi, il y a 3 définitions de la richesse. La première, c'est la santé. La deuxième, c'est la famille, notre réseau social ou amitié. Et ma troisième définition de la richesse, c'est l'accès à l'information. Et quand on parle de référent, on parle de code, justement, quand on parle de la place des jeunes, on leur donne une place. Ça, je pense que la réponse, c'est oui. Mais c'est quelle place leur donne-t-on? Aujourd'hui, on a le privilège d'être au 98.5, parents qui n'ont pas nécessairement eu de l'argent, puis un nom dans la société, comme on aime dire. Mais à cause qu'on a compris, nos parents nous ont permis de faire preuve d'une certaine détermination, on a pu ouvrir certaines portes. Et aujourd'hui, en tant que présidente du Conseil Montréalaise, j'ai également une préoccupation par rapport aux femmes, les jeunes femmes qui sont mères, les jeunes femmes qui sont célibataires, les jeunes femmes qui sont en situation d'itinérance, de précarité. Quelle place qu'on donne à ces femmes-là qui tentent de concilier juste de la survie, justement, l'éducation, la conciliation famille, travail, études, engagement social. Il y a un frein à la participation citoyenne. Donc, tout ça fait que c'est important aussi l'accès à l'information. Et en tant que société, quel est le rôle que l'on a? Je conclurai en disant notre rôle, c'est de permettre de peut-être apprivoiser les différentes façons d'aller vers ces différentes communautés pour qu'ils aient accès à l'information et puissent atteindre certains sommets dans notre société.
Moi, un des reproches que je fais beaucoup aux personnes des communautés, c'est que souvent, ils vont s'informer dans des bulletins de nouvelles de leur pays d'origine.
Mais comme c'est le cas pour Sergueï et sa famille, qui écoutaient des émissions soviétiques. Donc, évidemment, tu t'ouvres moins au Québec.
Oui, c'est le cas de mes parents.
Ça, là. Chez moi, j'écoute les nouvelles en russe puis les nouvelles en français, puis c'est pas pantoute la même chose. Là, genre, les deux disent complètement...
Des affaires différentes.
C'est complètement des opinions différentes. Puis des fois, genre, il y a des trucs qui se passent en Russie, qu'on va pas en parler ici. Des trucs qui se passent ici, qu'on va pas en parler là-bas. Puis c'est quand même des événements quand même importants.
Mais comment toi, tu te trouves là-dedans pour trouver la vérité? C'est entre les deux?
Je me fie aux deux. Puis en même temps, je vais sur Internet pour comme compléter le tout. Puis je vais pas juste me fier à une source parce que ça se trouve que comme c'est contrôlé ou genre c'est plus...
En bonne journaliste, je te dirais 2 sources minimum.
Oui, c'est ça.
C'est ce qu'on nous a dit à l'école.
Oui, c'est ça. Minimum 2 sources.
Ouais.
On continue les appels. Merci beaucoup, Mina. Marc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je pense que toutes ces choses-là, vous dites, c'est vraiment bien. Par contre, à Montréal, au Québec, ils devraient faire comme dans les autres provinces canadiennes. Genre, quand vous regardez à Toronto, Il y a beaucoup de minorités visibles parmi dans les médias partout. Fait que si au Québec on fait la même chose, on devrait même pas avoir de problème et on pourrait même pas en parler parce que ça va être comme si tu passerais du beurre dans du poivre. Mm-hmm. Puis tant qu'aussi longtemps que les gens vont être cachés, il n'y aura pas beaucoup, ça va toujours être un problème de société. Puis économiquement parlant, c'est pas bon parce que ça fait fuir les investisseurs d'ailleurs. Mettons, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis un investisseur pakistanais. J'ai 50 millions de dollars à investir à Montréal. Mais si je vois comment on traite les minorités visibles, je vais aller à l'autre province à côté. Parce que je veux dire, quand j'ouvre la télé, je vois un journaliste chinois. Je lis le journal, je vois un blanc. J'écoute la télé, mais un autre punch, je vois un arabe ou un haïtien, peu importe. Là, je me dis, ben, je me sens bien. Alors, je vais aller investir mon 50 millions de dollars là.
Mais
si j'arrive à une place, les minorités visibles n'ont pas de place. Pourquoi j'irais mettre mon argent?
Ouais.
Et présentement, c'est ça qui arrive présentement. Parce que nous, en arrière, là, pour vous donner exactement, je suis dans le milieu des affaires. On est à 5 à 7 ans en arrière comparé Toronto, Vancouver, économiquement parlant. Ça, je parle que ce soit Sylvain Gingras qui vient de Trois-Rivières, que, mettons, Joseph qui vient de Montréal-Nord, ou Ben Laden qui vient du Maghreb. On est 5 à 7 ans en arrière. Alors, si on veut rivaliser avec toutes les autres provinces comme Toronto, Vancouver, Winnipeg, il faut donner la place à tout le monde. Quand je dis tout le monde, hein,
C'est tout le monde,
là.
Ouais, ouais.
Que ce soit média, compagnie, peu importe, limite. Ouais. La limite, là, permise, juste pour vous donner le meilleur exemple. La meilleure personne qui peut donner le meilleur exemple, c'est 98.5. Engager des minorités visibles à la pelletée. Là, vous allez voir, là, tout le monde va vous aimer. Vous allez être mieux qu'un parti politique.
Ben, Marc, nos patrons vous entendent en ce moment, justement. Merci beaucoup de votre commentaire.
J'espère que M. Audet m'écoute, parce que moi, je le connais très, très bien. Je l'espère que M. Guimond m'écoute, parce qu'à chaque fois que je m'en vais dans un forum économique, ils sont toujours là, ils peuvent le dire. M. Audet le voit. Les minorités visibles, d'autres pays qui investissent, pas des millions, beaucoup de millions. Et puis, je vous le dis, c'est des emplois. Je vais vous donner la moyenne. Là. Chaque fois une entreprise de l'extérieur du Canada investit, c'est minimum 38 000 de revenus pour une personne.
Mmh.
Une personne, ça veut dire que c'est minimum 38 000. Imaginez-vous si ouvre une usine, il y a 300 personnes à 38 000.
Bien, merci beaucoup, Marc, de ces précisions. Puis évidemment que l'invitation est lancée. Et ça, c'est une chose aussi. Évidemment, le gouvernement qui a changé également les règles de l'immigration, peut-être ça pourra aider également sur le savoir, sur la langue également. C'est pas le premier arrivé, premier servi. Mmh. Il reste que les emplois dans les médias, si je parle... Pour nous, il n'y en a pas tant que ça. Elle dit, toi, tu pourrais le dire parce que tu es dans les médias aussi.
Bien, on parle beaucoup de diversité, de l'importance d'avoir des personnes de différentes origines dans les médias. Il y a un effort qui se fait. Moi, je le ressens.
Tu le sens, toi.
Oui, je le sens. C'est très facile pour moi de trouver du travail. Écoute, il y a deux semaines, j'ai envoyé 4 CV. J'ai reçu 4 propositions d'emploi. J'en ai choisi une. Je commence dans quelques semaines. Depuis 4 ans, je suis sorti de mon bac à l'université en journalisme à l'UQAM. Je n'ai jamais manqué de travail. Il y a un effort qui se fait, ça, c'est sûr.
C'est quoi ton truc? Vas-y, dis-le, parce que là, qui t'écoute, ils disent, OK, le gars s'appelle Hadi.
Est-ce qu'il y a suffisamment de personnes de couleur dans les médias au Québec? Je pense que non. Mais j'ai l'impression que les années à venir vont vraiment être plus positives pour nous.
Puis on va continuer à en parler. 1-866-790-9850. On doit aller à la pause. 514-790-9850. Continuez à communiquer avec nous. On se retrouve après la pause. 10h40, quels sont les défis reliés aux jeunes issus de l'immigration? On est avec Hadi Hassine, qui est chroniqueur et journaliste, Emrical, artiste, travailleur, entrepreneur social, Dorothy Alexandre, entrepreneur en communication et présidente du Conseil des Montréalaises, et Sergei Markov. On va continuer à prendre les appels au 1-866-790-9850. On a envie de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Monir, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, Monir, qu'est-ce que vous pensez de la situation?
Alors, moi, tout d'abord, j'aimerais vous remercier, Mme Brisson, de ce panel que vous avez réuni autour de vous. Ça fait vraiment plaisir d'entendre des jeunes issus de la communauté ou issus de toutes les communautés qui sont là et qui réussissent et qui se battent malgré toutes les difficultés qu'ils peuvent y avoir. Et que le message qui... Moi, je veux vraiment... Moi, j'ai 2 enfants qui sont nés ici, de 5, de 6 ans et de 10 ans. Alors, je les vois aller, puis je me dis, mon Dieu, la vie, les défis qui les attendent. Mmh. Mais en même temps, je ne les vois pas comme des problèmes. Je les vois vraiment comme des défis. C'est pour ça qu'on est venu aussi. On n'est pas venu pour la trouver facile. sinon on avait facile chez nous, dans notre milieu, oui, avec ça. Tous nos problèmes. Fait que si on est là, on est venu pour ça, on l'a cherché à quelque part, fait qu'il faut l'assumer. Puis je trouve que des fois, il y a du discours qui circule dans la communauté, qui peut se comprendre des fois, parce qu'on n'a pas tous la même force, le même combat, on n'est pas venus tous, on s'attendait tous au même défi, donc c'est propre à chaque personne, sa façon de réagir à la difficulté qu'il va trouver. Mais à un moment donné, on n'a pas le droit de gâcher la vie de nos enfants en leur mettant des bâtons dans les roues dès le départ, en leur mettant du poids sur les épaules, plus que ce qu'ils vont en avoir déjà. Mm-hmm. Désolé, j'en parle, je suis tout ému.
Mais je vous comprends, c'est tellement... Oui. Des enfants.
Mais oui. Mais je veux vraiment que ça soit positif pour eux, qu'ils sachent qu'on est encore au Québec dans une société du mérite. Et ça, c'est vraiment le message que je veux passer. Ici, on peut réussir quand on veut. Oui, c'est un peu plus difficile que les enfants qui sont, comme on dit, de souche, même que je n'aime pas beaucoup cette expression, mais à un moment donné, il faut passer outre. Mais la vie qu'on peut avoir ici, on est maître de notre vie. On est encore capable de décider dans notre vie, de faire les études qu'on veut et de travailler dans le domaine qu'on veut. On doit juste rusher un peu plus encore, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que quand on voit d'où on vient, à un moment donné, il faut regarder aussi dans le rétroviseur puis regarder en arrière. Puis se dire, oui, mes parents, s'ils m'avaient laissé là où ils étaient, peut-être que j'aurais même pas eu la chance de chialer en bon québécois, comme on dit.
Oui.
Alors, avançant, puis ceux qui sont là juste le négatif, qui essaient de nous tirer vers l'arrière, on les regarde pas. On essaie de les aider du mieux qu'on peut, mais à un moment donné, c'est le rôle du politique. C'est le politique aussi qui doit mettre en place des politiques qui favorisent l'accès à l'information, comme une de vos intervenantes a dit. Moi, il y a une chose, un sujet qui me touche beaucoup, c'est l'éducation des enfants. Ma femme est enseignante. Ma femme est une pure laine, comme on dit. Donc, elle n'a pas cette réalité, mais elle la vit avec à travers ses enfants.
Avec vous, oui.
Donc, mes enfants ne sont, comme Hadi a dit, ne sont ni québécois, ni arabes. Moi, mon fils, il me dit, moi, je suis moitié marocain, je suis moitié québécois. Mais quand ça l'arrange, il est québécois, quand ça l'arrange, il est marocain. Donc, les vacances, il est marocain, il veut aller au Maroc, il veut voyager. Mais ici, non, papa, c'est pas comme ça qu'on fait au Québec. Donc, à un moment donné, il y a une richesse, puis il y a quelque chose de le fun à vivre à travers tout ça. Donc, il faut juste...
Il faut prendre le meilleur de tout ça, effectivement.
Exactement. Ouais. Il faut regarder juste le positif, puis aller vers l'avant, tout simplement.
Mais merci beaucoup, oui.
Si j'ai juste 30 secondes, ou si j'ai de l'éducation, il y a un sujet que les politiciens doivent être conscients, que nous, les immigrants, on vient d'un système d'éducation qui est totalement différent. Même dans notre façon d'éduquer nos enfants, notre façon de faire les leçons, notre façon de tout accompagner nos enfants qui est totalement différente. Puis on est là, on est comme diminué. Moi, je prends l'exemple. Moi, mes parents me frappaient pour étudier, pour me faire rentrer le cours dans ma tête. Ici au Québec, la majorité des immigrants y arrivent, quand je parle moi de la communauté maghrébine, en grande majorité, on a eu cette façon d'élever nos enfants. On arrive ici, on ne peut plus fonctionner de cette façon. Mais c'est quoi l'alternative? Ben, on est comme perdu.
Ouais, faudrait peut-être avoir plus de formation, ouais, effectivement, au niveau de l'éducation. Merci infiniment, Monir, de votre témoignage. Albert, bonjour.
Oui, bonjour. Bon, mais moi aussi, je suis du même avis que le dernier intervenant. C'est-à-dire, les enfants, ils doivent être orientés. Parce que les enfants, c'est comme un fleuve, là. Si vous les laissez, il va se tordre un peu comme ça. Mais pour ce qui est du défi qui leur attend ici, vous savez, le Québec, là, c'est un pays de plein d'opportunités, là. Mais sauf qu'il faut être dégourdi, il faut savoir se battre. Bon, moi-même, le papa, j'en ai subi. Malheureusement, que j'ai étudié ici, j'ai des diplômes du Québec, mais sauf que dans certains milieux, on me dit, oh non, mais écoute, ça prend de l'ancienneté, tu vois, bon, tout ce tralala. La vie n'est pas facile ici aussi, là. Et surtout quand on dit aussi, le Québec, c'est pas le lait, le miel. Bon, vous voyez, donc il y a des grands défis qu'il y a à relever et qu'il faut savoir aussi de l'encadrement dans le cadre de l'homme politique, tu vois. Sinon, si cela, ça ne rime pas, ben, ça fait vraiment le défi, quelles que soient leurs décisions, les enfants, bon,
ça
ne pourra pas marcher.
Effectivement. Albert, merci. Et je veux qu'on parle quand même de l'emploi parce que c'est important. Puis les gens en parlent beaucoup aussi. On se définit par l'emploi et on en a besoin aussi d'accéder à des postes intéressants, des postes également de direction. Adi, tu me parles de ton frère qui a dû changer de nom pour avoir un emploi au Québec.
Mon frère, il s'appelle Osama. O-S-A-M-A. Et depuis quelques années, c'est devenu SAM. Donc, on a barré deux lettres, la première, la dernière. Quand il a appliqué avec son nom au SAMA, il a envoyé des CV, il n'a reçu aucun retour. Et quand il l'a fait avec le nom, le prénom SAM, ben à partir de là, sa carrière a commencé.
C'est un exemple concret.
Oui.
Puis moi, je vous dirais, moi, j'ai réalisé, animé un podcast dans Côte-des-Neiges. Et des jeunes hommes issus des communautés noires m'ont partagé qu'ils ont 17 ans, qu'ils subissaient une discrimination par rapport au nom de leur rue. C'est-à-dire que dans Côte-des-Neiges, il y a certaines rues qui, ultimement, dans le passé, avaient un passé de violence. Et à toutes les fois qu'ils ont mis ce nom-là sur leur CV, ils n'ont vraiment pas réussi à avoir certains emplois.
Ah, oui.
Donc, vous voyez une discrimination, le nom, ici, on parle de nom de rue également.
Pour aller dans le même ordre d'idée que ce qui a été dit, les noms en consonance d'origine canadienne-française, tels que Tremblay ou Bolduc, il y a une étude qui disait que ils ont 60% plus de chances d'être invités à un entretien d'embauche qu'un Traoré, un Ben Saïd, selon le sociologue Paul Haidt. Donc, il faut une plus grande ouverture à tout niveau. Il faut même, dans les postures de décision, des personnes qui reflètent la diversité du Québec de plus en plus. On parle même aussi au niveau de nos sociétés d'État, ça a été dit plus tôt.
Mais quand même, des Mahmoud, des Mustapha, des Ali dans la fonction publique, il y en a qui travaillent dans le privé aussi. Je pense à mes amis qui ont été à l'école. Tout le monde travaille. Évidemment, il y a un effort supplémentaire des fois à faire de changer son prénom, mais il y a quand même de l'espoir.
Puis il y a l'ouverture.
Puis là, tu amènes quelque chose d'intéressant, c'est au niveau du réseau. Tous mes amis travaillent.
Oui.
Voilà.
Quel est notre réseau? Il faut un environnement favorable à notre réussite. Je pense que si tu pouvais nous donner quelques trucs, tu disais tantôt, Hadi, moi, j'ai trop d'offres. Non, il y en a trop. Regardez mon nom, je ne l'ai pas changé. C'est pas Samuel.
Il va y penser, puis il va pas nous dire.
Il ne peut pas quitter cette station sans donner deux, trois trucs pour les gens qui écoutent et qui disent, hey.
On va avoir la liste après la pause. Évidemment, reste avec nous. On parlait d'emploi avant la pause avec les trucs d'Adi Hassine. Alors, Adi, il faut que tu nous donnes tes trucs. Tu n'as pas le choix. Amrical l'a mentionné tantôt. Il y a des gens qui t'écoutent, des trucs pour trouver de l'emploi, justement.
Donne. En fait, c'est. Ben, moi, le truc que j'aime à tout le monde, c'est les relations publiques. C'est d'aller rencontrer des gens, serrer des mains, penser à très, très long terme. Moi, l'année où j'ai été admis en journalisme à l'UQAM, j'ai écrit à Éric Clément à la presse, qui est devenu un ami dans la vie. Il y a 5 ans, moi et Eric, on n'avait aucun point en commun. Aujourd'hui, on se parle une fois de temps en temps. Après ça, j'ai rencontré Luc Boulanger à la presse. Ensuite, j'ai rencontré Dominique Carpin. Mais tout ça...
Catherine Brisson.
Voilà. Tout ça, ça n'a pas été pensé dans une perspective de...
Ouais.
Mais je l'ai fait naturellement. Puis moi, j'encourage les jeunes à penser à plus tard. T'sais, si tu travailles en... Si tu t'en vas vers un métier en génie, écoute, prends le temps d'aller rencontrer des gens qui font le même métier que toi. Peut-être qu'ils vont te prendre par la main puis qu'ils vont t'amener avec eux.
Ça fait mentorer un peu.
Oui. Ouais.
Mais c'est ça l'importance du mentor. Puis je pense aussi qu'en tant que personne issue des communautés culturelles diverses, c'est important de retourner où est-ce qu'on est. Moi, j'ai pu faire 7 ans comme journaliste au sein du groupe TVA, donc juste avant que je devienne entrepreneur en communication, parce que j'étais bénévole dans un média de la communauté haïtienne et quelqu'un de TVA m'y a découverte. Donc c'est important également maintenant pour moi de redonner. Et quand je dis redonner, c'est pas juste de parler bonbon puis parler... c'est de donner des processus, de donner des trucs, c'est d'ouvrir le réseau. C'est surtout de faire comprendre le système. Parce qu'une fois que tu comprends le système, tu sais à quelle porte frapper, comme le mentionne Adib. Tu sais également où sont les pièges. Parce qu'il y a aussi dans la question du succès, comme on dit entre guillemets, il y a la crainte de l'instrumentalisation. Être instrumentalisé, par exemple, en politique, c'est de prendre des jeunes et de les mettre là parce que ça fait notre affaire, mais pas parce qu'on veut vraiment que ces jeunes-là réussissent et s'épanouissent. Et également, je dirais que toute la question de la gouvernance, je dirais, au niveau de la gouvernance, c'est important d'avoir des gens dans des positions de leadership, mais également les femmes. Parce que quand on parle de la question de la place des jeunes, quand on parle des femmes issues de la diversité, elles sont encore moins présentes dans certaines sphères. Donc, on parlait tout à l'heure de la question de la parité. On atteint la parité, mais maintenant, qu'en est-il de ces femmes? Si on atteint la parité dans certaines sphères, si les femmes issues des diversités ne sont pas là, mais c'est, pour moi, c'est comme un objectif qui est à moitié atteint.
Mais est-ce que vous êtes pour la discrimination positive?
Oui.
Ouais, moi, je suis.
Je suis aussi. Je pense qu'il peut y avoir des postures un peu plus nuancées parce que les gens voient cela comme une contrainte, comme une obligation. Ce n'est pas quelque chose qui vient peut-être, qui semble naturel, mais toutefois, les inéquités qui existent aussi dans le milieu de l'emploi sont aussi des dysfonctions. Quand on regarde que ce soit la fonction publique ou que ce soit des compagnies privées, on gagne tous et toutes à voir dans ces compagnies-là le reflet de la population qu'on veut desservir. Donc, pourquoi pas mettre des mesures pour rattraper. Tantôt, on avait un auditeur, je pense que c'est Marc, qui disait qu'il voit la réalité dans les provinces, dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis.
Au niveau économique.
Au niveau économique. Donc, on gagne à aller dans en ce sens-là. Il y a aussi un autre enjeu, c'est que le Québec est une des provinces les plus vieillissantes. Donc, au niveau démographique, la jeunesse, on a peut-être un retour à une forme de baby-boom, mais c'est encore, c'est parce que notre poids démographique n'est pas là. Toutefois, il y a plusieurs personnes qui partent à la retraite. Donc, on a à avoir on doit redoubler d'ardeur pour engager, puis engager dans une nouvelle perspective, d'être ouvert.
Adi.
Moi, ça me met un peu mal à l'aise, la discrimination positive. Je pense que j'en tire un gros bénéfice de ça. Mais rencontrer un employeur qui me dit, écoute, on cherche un arabe.
Tu veux pas être l'arabe de service.
Voilà. Ouais. Et honnêtement, j'ai déjà senti que je l'ai été.
Ah oui?
Mmh. Oui.
Comment tu l'as senti? C'était pas dit comme ça, et on cherche un arabe.
Non, mais oui. Ça leur fait plaisir d'avoir une personne arabe.
Mais c'est l'instrumentalisation dont je parlais. Mmh.
Oui, mais...
Vas-y.
Mais moi, ça m'a jamais nui dans la vie d'être l'arabe de service. Mais je ressens un certain malaise.
Mmh. Tu serais pas nécessairement pour la discrimination positive à ce moment-là, toi? Plus au niveau du talent et non pas de l'origine, de la religion, de la couleur de peau.
Oui, mais le talent, c'est super important. Mais en fait, c'est tellement une question difficile à dire. Là. C'est tellement dur de me prononcer là-dessus. Là. Oui et non.
Ouais. Il y a un mythe aussi de la méritocratie. Je sais pas ce que tu en penses, Dorothée, mais l'idée qu'on a dans la vie ce qu'on mérite. Moi, j'entends de plus en plus une phrase qui dit « on a dans la vie ce que l'on négocie ». Tantôt, tu parlais de relations publiques, des gens que tu rencontres dans l'informel. Mmh. Ce qu'on fait entre le point A puis le point B est extrêmement important. Les espaces informels, avec qui on s'entend, avec qui on est en désaccord. Et ça, si on est capable de transmettre ça très tôt à notre jeunesse, que l'école secondaire est un milieu politique, la relation avec tes profs, la relation avec tes coachs, la relation avec celui même qui fait de l'intimidation ou autre, on ne dit pas d'être complice de dynamiques comme ça, mais il y a tout un espace où informel qu'il faut investir. Puis je pense que l'engagement social traduit très bien cette dynamique-là.
Mais c'est ce que tu fais d'ailleurs avec tes jeunes qui sont en studio, qui sont venus nous rejoindre.
C'est ce que je fais, c'est ce que Dorothée fait quand elle dit qu'elle est à l'écoute de ces jeunes. Elle entend ce qu'ils disent et ça alimente sa réflexion pour que dans des espaces formels, je ne vais pas parler pour toi, Dorothée.
Mais c'est vraiment ça. C'est qu'une fois qu'on a accès à certains milieux, on écoute ce qui se dit à l'extérieur de ces cercles-là et on les ramène à l'intérieur. Et c'est comme ça que les changements sociaux se font. Puis c'est ça, quand on parle de discrimination positive, on peut être pour et contre. Et comme dirait Daniel Laferrière, c'est complexe à répondre en 2 minutes et demie. Mais moi, je pense surtout que c'est une question d'équité. À compétence égale, une personne qui n'a pas accès à l'information, etc., c'est comme un Usain Bolt, là, t'sais, une course à relais. Quand la personne, elle part en arrière, elle peut avoir les mêmes capacités, le même talent, mais si elle part vraiment de l'arrière, comment peut-elle espérer atteindre
Arriver.
Ouais. C'est vraiment ça la question. Ouais. Mais c'est pas simple. On pourrait revenir pour une autre émission.
C'est ce qu'on va faire. Et Sergey, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie? Tu as 17 ans, tu travailles fort, tu es vidéaste.
Ouais, c'est ça. Ben, je m'en vais au cégep en sciences informatiques, mathématiques. Mais de côté, je fais des courts-métrages avec des amis. On a passé une petite boîte de prod. Ça s'appelle White Fox Productions. Il y a moi, Alexandre Vaillancourt, Tom Langlois, puis Justin Picard.
Ben, avez-vous une page Facebook?
Pas encore, mais on a un site internet.
Ça s'en vient.
Attends, c'est le White Fox?
Ouais, White Fox.
Comme les blancs, genre?
Ouais, le renard blanc.
OK, Fox.
Okay.
Désolé pour le...
Excuse pour les auditeurs.
Adi va te donner des conseils, Sergey, justement, pour comment bien te présenter également. Et merci, ça a été un immense plaisir de vous avoir, Adi Hassine, Emrikal et Dorothée Alexandre et Sergey Markov. On s'en va pour les informations et on vous retrouve tout de suite après la pause. À tout de suite.